Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de se réjouir de la mort de quelqu'un. Eh bien, ce matin, je vous invite à saisir cette occasion. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, en effet, c'est que Loïc, dont nous allons célébrer le baptême tout à l'heure, Loïc est mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, et ce n'est pas un sujet de tristesse, mais au contraire un sujet de joie. C'est comme ça, en effet, que la Bible parle de ce que c'est que d'être un chrétien, comme on va le voir dans quelques instants. Mais avant de lire le texte, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà eu envie de changer de vie, de tourner définitivement la page, de prendre un nouveau départ, comme le chantait le boys band To Be Free, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce boys band, To Be Free, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Pour satisfaire, ça vous dit quelque chose, hein? Pour satisfaire, je ne suis pas aussi beau que ces trois gars, mais bref. Pour satisfaire ce désir de changement, vous avez peut-être déjà essayé vous-même de changer de look, ou peut-être de changer de métier, ou de changer de petit copain, ou de changer de lieu de résidence. Mais peut-être que le passé s'est montré trop compliqué à oublier et les regrets trop douloureux à surmonter. Peut-être que le besoin de tourner le dos à cette vie est devenu pour vous une telle nécessité que vous avez même envisagé l'irréparable. Eh bien, si c'est votre cas, et si vous aimeriez parfois retourner à la case départ, faire table rase et repartir de zéro, eh bien, sachez, mes amis, que la Bible porte sur cette réalité le regard le plus lucide et le plus réaliste qui soit. La Bible reconnaît bien que ce dont vous avez vraiment besoin, ce n'est pas juste de changer vos habitudes, ni de changer vos fréquentations, ni de changer d'apparence, ni même fondamentalement de changer de religion. Mais ce dont vous avez vraiment besoin, d'après la Bible, c'est de changer de vie. Changer de vie. Et la Bible seule nous montre comment cela est possible. Je suis sûr qu'on a tous notre propre idée de ce que ça veut dire que d'être un chrétien. On a tous notre propre idée de ce que ça veut dire d'être un chrétien. Mais peut-être que ce matin, vous allez découvrir ce que cela veut dire d'être un chrétien d'après la Bible. Je crois qu'il reste de la place là, ou en haut. Merci. Et le texte qu'on est sur le point de lire a justement pour but de nous montrer que la foi en Jésus, c'est le remède radical dont nous avons besoin. La foi en Jésus, c'est le remède radical dont nous avons besoin. C'est un remède bien plus radical qu'un déménagement, qu'une psychanalyse, ou même qu'un suicide. C'est le seul remède qui nous permette de prendre vraiment, complètement et définitivement un nouveau départ. Alors on va lire le texte, c'est dans Romains chapitre 6, on va lire à partir du verset 3. Le problème c'est que j'ai laissé ma Bible en haut, donc je vais prendre celle-ci. Non mais je préfère cette version. Alors, Romains chapitre 6, versets 3 à 11. Non, mais vous allez voir que la traduction peut jouer sur ce passage, notamment, vous verrez au verset 5. On va lire à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Je vous invite à la prière. Encore une fois, Seigneur, ce matin, nous nous apprêtons à étudier ta parole et nous te demandons, s'il te plaît, ton aide pour bien comprendre tout ce que toi, tu veux nous dire. S'il te plaît, par ton Saint-Esprit, applique ta vérité à nos vies. Au nom de Jésus. Amen. La foi en Jésus, donc, c'est le remède radical dont nous avons besoin. Tout d'abord, parce que par la foi en Jésus, on est unis à lui. Vous avez remarqué le nombre de fois qu'on a dans le texte une expression du type « en lui », « avec lui » ou « comme lui » pour décrire le sens du baptême chrétien. Et bien l'apôtre Paul est en train d'insister tout simplement sur le fait que la foi chrétienne consiste fondamentalement à être unie à Jésus ou identifiée avec lui. Mais pourquoi le fait d'être en Jésus, avec Jésus ou comme Jésus serait-il une si bonne chose? Eh bien, vous connaissez bien tous ces gens, ces citoyens lambda, comme on dit, qui passent leur temps à graviter autour des gens puissants, des gens riches, des stars, des hommes politiques, avec l'espoir de se donner à eux-mêmes de l'importance, ou peut-être de gagner un peu d'argent, ou peut-être d'intégrer éventuellement leur cercle privilégié. Ces gens-là, ces citoyens lambda que nous connaissons tous, en fait ne font que manifester ouvertement ce que nous désirons tous secrètement. N'est-ce pas? Qui n'a pas envie de faire partie du cercle intime de Zidane, ou de Bill Gates, ou de Nelson Mandela, ou du prince Albert de Monaco? Est-ce que vous ne souffrez pas parfois de l'impression d'être quelqu'un d'insignifiant? La raison pour laquelle on a envie secrètement de faire partie du cercle intime de ces gens puissants, c'est parce qu'on aimerait entrer un peu au bénéfice de leur réputation ou de leur pouvoir ou de leur richesse. Et bien ici, dans le texte, la raison pour laquelle l'apôtre Paul met en avant l'idée que par la foi en Jésus, on est uni à lui, c'est qu'en étant uni à lui, on ne reçoit pas juste un peu de son influence bénéfique, mais d'après la Bible, on entre pleinement au bénéfice, non seulement de tout ce qu'il a fait, de tout ce que Jésus a fait, de tout ce qu'il continue de faire et de tout ce qu'il a promis de faire, mais en plus on entre au bénéfice pleinement de tout ce qu'il est. Et d'après la Bible, Jésus n'a pas juste gagné la Coupe du Monde de football. D'après la Bible, Jésus n'est pas juste un milliardaire, ni un homme politique, ni la coqueluche des magazines People, mais d'après la Bible, Jésus est le Fils éternel de Dieu. Il est le propriétaire de l'univers, il est l'être humain parfait. Et il a accompli quelque chose que personne d'autre n'aurait jamais pu ni ne pourra jamais réaliser. On va parler dans quelques instants de ce que Jésus a réalisé. Mais pour l'instant, retenons au moins cette idée. C'est que par la foi en Jésus, on est unis à lui. Par la foi en Jésus, on est unis à lui. Dans le texte, l'apôtre Paul utilise d'ailleurs une image très forte que ma traduction arrive à exprimer assez bien. Et cette image... pour décrire ce que c'est qu'un chrétien, il dit que qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est devenu une même plante avec Jésus. C'est très fort, ça. On est greffé sur lui. On entre au bénéfice de ses racines et de sa sève. C'est pourquoi la Bible, dans un autre endroit, dit d'ailleurs qu'un croyant est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et l'apôtre Paul ici dit que cette union avec Jésus, c'est ce que signifie particulièrement le baptême chrétien. Alors qu'est-ce que Jésus a réalisé de si extraordinaire? Eh bien deuxièmement, la foi en Jésus, c'est le remède radical dont nous avons besoin parce que par la foi en Jésus, on est quitte du péché. On est quitte du péché. Le péché, d'après la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément évident de savoir ce que c'est que le péché. Ben, d'après la Bible, le péché, c'est tout ce qu'on fait ou ne fait pas, tout ce qu'on dit ou ne dit pas, et tout ce qu'on pense ou ne pense pas, qui procède d'un désir de vivre indépendamment de Dieu. C'est bon, vous avez noté? Je répète. Le péché, d'après la Bible, c'est tout ce qu'on fait ou ne fait pas, tout ce qu'on dit ou ne dit pas, et tout ce qu'on pense ou ne pense pas qui procède d'un désir de vivre indépendamment de Dieu. En d'autres mots, ce sont toutes les choses dans votre vie qui, soit par leur présence, soit par leur absence, portent atteinte au caractère de Dieu. Toutes les choses dans votre vie qui, soit par leur présence, soit par leur absence, portent atteinte au caractère de Dieu. Et oui, ça fait un paquet de choses. Ça fait un paquet de choses. Et toutes ces choses, comme autant de crimes aux yeux de votre Créateur, nécessitent d'être jugées et payées. C'est sûr qu'à ce niveau, la Bible dresse un tableau un peu sinistre. Hein. Mais la Bible est réaliste en ce qui concerne la nature humaine. D'après la Bible, c'est comme si nous étions tous, en tant qu'êtres humains, c'est comme si nous étions tous nés avec un compte en banque à découvert. Pas de chance, hein. On est né avec un compte en banque à découvert. Et on est même incapable de gagner assez d'argent chaque mois pour rembourser ne serait-ce que le montant des intérêts qui s'accumulent avec le temps. La pression de la banque tout au long de votre vie vous incite à commettre des délits pour tenter de renflouer le compte, mais en vain. La situation ne fait qu'empirer avec le temps. Et puis, la Bible, d'après la Bible, voici ce que Jésus a fait pour ceux qui se confient en lui. Il a remboursé intégralement la dette à ses propres frais, de telle sorte qu'on est à la fois quitte du découvert et libre de la pression du banquier. Alors qu'est-ce que Jésus a fait pour cela? Qu'est-ce qu'il a fait pour cela? La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule façon de payer pour vos péchés. C'est de mourir. Mais pas juste de mourir physiquement, parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'il nous suffirait de nous suicider pour avoir une place garantie au paradis. Non, mourir spirituellement aussi. C'est-à-dire être éternellement séparé, corps et âme, de Dieu. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un tableau sinistre que nous dresse la Bible. Mais voici la bonne nouvelle. C'est que Jésus est passé par là, à la place de tous ceux qui se confient en lui. Il est mort pour payer à ses frais le prix de nos péchés. Il a acquitté, une fois pour toutes, notre dette. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, dans le texte, que puisque par la foi en Jésus, je suis uni à lui, alors ça veut dire que puisque Jésus est mort pour mes péchés, moi aussi je suis mort pour mes péchés. Puisque par la foi en Jésus, Loïc, ce matin, est uni à Jésus, alors ça veut dire que Loïc a été crucifié pour ses péchés. Autrement dit, Loïc a entièrement acquitté sa dette, mais entièrement aux frais de Jésus. Par conséquent, l'apôtre Paul dit dans le texte que le péché, du coup, est devenu impuissant dans la vie du croyant. C'est-à-dire que nous ne vivons plus sous la tyrannie d'une dette impossible à rembourser. Mais ce n'est pas tout. Troisièmement et dernièrement, la foi en Jésus, c'est le remède radical dont nous avons besoin parce que par la foi en Jésus, on est vivant pour Dieu. La Bible est explicite concernant ce qui est arrivé à Jésus. Il n'est pas juste mort sur une croix, il n'a pas juste été enseveli dans un tombeau, mais il est réellement ressuscité, il est redevenu vivant. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'après le texte, par sa gloire, par sa propre gloire, pour rendre Jésus vainqueur, pour manifester la victoire de Jésus sur la mort, et pas juste spirituellement parlant, mais physiquement aussi. C'est pourquoi en étant unis à Jésus par la foi en lui, on devient d'une part vivant spirituellement, mais on a aussi l'espérance certaine de ressusciter physiquement. C'est un peu compliqué tout ça, mais l'idée à retenir est la suivante. C'est que la foi chrétienne, d'après la Bible, ce n'est pas juste obtenir le remboursement de sa dette, c'est aussi entrer dans une vie radicalement nouvelle. C'est comme si un riche bienfaiteur non seulement remboursait entièrement votre découvert bancaire, mais en plus approvisionnait votre compte d'1 million d'euros en comptant sur vous pour faire bon usage de cet argent. Jésus fait la même chose pour ceux qui se confient en lui. Il n'est pas seulement mort pour nous, il est aussi ressuscité pour nous. Par la foi en Jésus, on est uni à lui et on entre non seulement au bénéfice de sa mort, mais aussi au bénéfice de sa résurrection d'entre les morts. Et la vie que Dieu nous offre en Jésus, c'est une vie qui commence dès maintenant et qui se poursuivra éternellement. C'est une vie conduite par ce que la Bible appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et de Jésus lui-même qui est donné aux croyants comme ce million d'euros à provisionner sur votre compte, comme ce million d'euros, non seulement pour nous permettre de glorifier Dieu dans notre vie, c'est-à-dire de vivre de plus en plus en conformité avec son caractère, mais en plus, ce million d'euros, ce Saint-Esprit que Dieu nous donne, la Bible dit que c'est un genre d'acompte, un genre de dépôt, de garantie pour attester notre future résurrection. Vous vous souvenez de la parabole du serviteur impitoyable ? C'est Jésus qui raconte cette histoire, l'histoire d'un serviteur dont le maître lui a remis une dette, disons de 50 000 euros. Mais ce serviteur, ensuite, il va faire jeter en prison un de ses collègues qui lui devait, quant à lui, seulement 5 euros. Évidemment, l'histoire de ce serviteur, c'est l'histoire d'un homme qui n'avait pas compris que par la foi en Jésus, on est non seulement mort au péché, mais on est aussi vivant pour Dieu. On entre dans une vie nouvelle. Bref, par sa foi en Jésus, Loïc est mort. Je vous le disais au début, il est mort par sa foi en Jésus. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'il est mort en ce qui concerne le péché. Mais par sa foi en Jésus, Loïc est bel et bien vivant, en vertu de la résurrection de Jésus. Et maintenant qu'il vit, comme dit le texte, il vit pour Dieu. Alors pour conclure, on a pu voir ce matin ce que cela voulait dire d'être un chrétien d'après la Bible, pas d'après nos propres petites idées, mais d'après la Bible. On a pu voir que la foi en Jésus, c'était le remède radical dont nous avions besoin, un remède bien plus radical qu'un déménagement, qu'une psychanalyse ou qu'un suicide. Parce que par la foi en Jésus, on est uni à lui, on est quitte du péché et on est vivant pour Dieu. Alors si parfois vous ressentez le besoin de prendre un nouveau départ, ce que la Bible vous propose et ce que Jésus rend possible, c'est ni plus ni moins que de changer de vie. Et il n'y a que par la foi en Jésus que c'est possible. Aucune autre religion ne vous propose d'être uni avec quelqu'un qui est à la fois homme et Dieu et d'entrer au bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Aucune autre religion ne vous propose cela. Et quand on y pense, c'est absolument époustouflant. C'est le seul remède qui nous permette de prendre vraiment, complètement et définitivement un nouveau départ. Un jour, Jésus discutait avec un homme très intelligent, très cultivé, et Jésus lui a dit, si je peux me permettre de paraphraser les paroles du Seigneur, il lui a dit, « Mon vieux, je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Mais je vais te dire à quoi ça ressemble la foi chrétienne. » C'est comme naître de nouveau. Tu sais, naître de nouveau. Comme un bébé qui ressort du ventre de sa mère une nouvelle fois. Évidemment, son interlocuteur en a perdu son latin, ou plutôt son araméen, je devrais dire. Et Jésus lui a alors expliqué, et là je ne paraphrase plus ses paroles, il lui a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, où est-ce que vous en êtes ce matin ? Dans quelques instants, Loïc va se faire baptiser comme signe de son union avec Jésus. C'est Loïc qui va retenir toute notre attention dans quelques instants. Mais dans tout ce que j'ai dit ce matin, il ne s'agit pas que de Loïc. Il s'agit de chacun d'entre nous. Si vous avez placé votre foi en Jésus, sachez ce matin que vous êtes quitte de ce passé qui vous semble parfois trop lourd à porter. Et sachez que Dieu vous a accordé tout ce qui est nécessaire pour marcher en nouveauté de vie. Si vous n'êtes résolument pas un croyant, mais que vous êtes assez lucide pour reconnaître que votre existence même est une question en soi qui nécessite une réponse, sachez que la Bible y apporte la réponse la plus réaliste et la plus cohérente. Alors intéressez-vous à la Bible. Enfin, si vous êtes entre les deux, si vous ne savez plus où donner de la tête pour trouver un sens à votre vie, à vos joies ou à vos souffrances, à vos espoirs ou à vos regrets, sachez que ce qui vous est offert en Jésus est parfaitement suffisant et ne se trouve nulle part ailleurs. Amen. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu, notre Père, de nous rappeler ce matin qu'en Jésus, nous avons le remède radical dont nous avons besoin. Aide-nous à en prendre mieux conscience, jour après jour. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit que tu nous accordes si nous avons placé notre foi en ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous prions. Amen.